Aux origines de Rome, il y a deux frères, Romulus et Rémus, nés d'un viol du dieu Mars sur la prêtresse vierge Rhea Silvia. Sur la fondation même de leur ville a coulé un sang fratricide. Romulus a tué Rémus comme Caïn a tué Abel dans la Genèse. Et comme tant d'autres héros et dieux fondateurs des civilisations humaines ont tué leurs parents afin d'imposer leur œuvre et leur pouvoir. Au début de Rome, il y a encore un autre crime possible. Un soupçon de meurtre encore non élucidé. Romulus lui-même, une fois roi autoritaire, aurait été tué par les sénateurs. Contrairement aux deux autres crimes civils qui l'ont précédé, les Romains n'acceptaient pas volontiers cet assassinat politique. De ce passé ensanglanté et du destin légendaire de Romulus et Rémus, nous discutons aujourd'hui avec Dominique Briquel, correspondant de l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres, directeur d'études émérites à l'École pratique des hautes études, professeur émérite à la Sorbonne, ancien directeur du laboratoire d'archéologie de l'École normale supérieure, directeur de collection aux Belles Lettres et éminent spécialiste d'histoire romaine, de littérature latine, de l'étrusque et des autres langues de l'Italie pré-romaine. Humanité dans le texte, un podcast de l'École normale supérieure et de l'Université Paris Sciences et Lettres. Dominique Briquel, merci de participer au podcast Humanité dans le texte.
Ben merci de me permettre de participer. Je dois dire, c'est toujours un plaisir pour un chercheur de pouvoir présenter ce à quoi il consacre son activité scientifique. Donc vraiment, je saisis avec joie cette occasion.
Et nous allons consacrer ce podcast à vos travaux. Cet épisode en particulier a une plongée dans vos travaux sur l'une des légendes fondatrices de Rome les plus célèbres, donc celle de Romulus et Rémus. Mais avant d'être interprétés, les légendes et les mythes sont faits pour être contés. Alors, avant de s'intéresser au texte de Tite Live que vous avez préparé pour nous, pourriez-vous, en quelques mots, nous raconter ce mythe fondateur ?
Alors, ce mythe fondateur, ça n'était pas considéré par les anciens comme un mythe. C'était vraiment, pour eux, leur histoire, le début de leur histoire. Et dans un sens, ça continue encore aujourd'hui. Quand vous allez à Rome, vous voyez que les armoiries de la ville de Rome, même qu'on voit sur les autobus, vous avez la louve à l'étang Romulus et Rémus. Alors évidemment, l'histoire de la louve, ça n'est qu'un épisode d'une histoire assez longue et assez compliquée, que les Romains se racontaient, qui nous ont transmis dans la littérature, et effectivement une histoire qui était en grande partie faite de violence. Alors déjà au départ, Romulus et Rémus, pourquoi est-ce qu'ils ont été allaités par la louve? C'est pas très normal. C'est parce qu'ils ont été chassés de chez eux à leur naissance. En fait, ils étaient nés d'un viol, ce qui peut nous sembler assez étrange, parce que leur mère, qui s'appelait Rhea Silvia, était religieuse dans un des sacerdoces féminins de l'époque, était vestale. Et les vestales avaient fait vœu de chasteté. Évidemment, ça ne s'est pas passé ainsi. La vestale en question a rencontré le dieu Mars, et ce qui s'est passé est arrivé. Elle a donné naissance à ses deux enfants. Alors, je reprends peut-être l'histoire. Parce que, en fait, pourquoi est-ce qu'elle était vestale ? Son père était le roi d'Albe de l'époque, qui s'appelait Numitor, et déjà là, il y avait des histoires de frères qui s'entendaient mal, parce que son frère Amulius, le méchant Amulius, l'avait chassé du trône, et avait occupé le trône à sa place. Et comme il se méfiait qu'il puisse y avoir des enfants qui lui contestent son usurpation, il se trouve que le roi Numitor avait une fille, Rhea Silvia, un beau moyen d'éviter qu'il y ait de la descendance, c'était évidemment de lui demander de devenir religieuse et de faire vœu de chasteté. On voit ce qui est arrivé. Alors évidemment, le vilain Amulius était furieux de voir des enfants. Donc les enfants, il les met dans une corbeille, il les jette dans le Tibre. C'est exactement l'histoire de Moïse. Comme l'histoire de Moïse, ça se termine quand même bien, ils ne sont pas noyés. Et ils abordent sur le bord du fleuve, là c'est une louve qui le nourrit. Puis ensuite, bien sûr, l'histoire continue, Romulus et Rémus, les deux frères, grandissent dans un milieu de bergers, ils reviennent à Albe d'où ils avaient été chassés, ils punissent le vilain Amulius et rétablissent leur père Numitor sur le trône de Rome, mais ils décident d'aller se faire une ville à eux, se construire une ville à deux. Alors le problème, c'est qu'une ville, ils étaient deux. Or, il y a, en principe, il y a un seul chef. Donc, ils essayent de voir comment faire, quel sera le chef des deux. Bon, Jupiter intervient, il donne un signe qui favorise Romulus. Résultat, son frère Rémus est absolument furieux. Et c'est la fameuse histoire, là encore, on retrouve un crime absolument horrible, le crime de fratricide, puisque Romulus tue Rémus qui n'accepte pas la supériorité de son frère. Bon, Rémus disparaît, donc le seul roi, c'est Romulus. Et là, il devient roi de Rome, bon, il remporte des tas de victoires, etc. Tout ça, c'est assez attendu et assez banal. Mais là aussi, ça ne se passe pas aussi bien qu'on pourrait l'attendre. Parce que roi, bah, il prend un peu trop de goût au pouvoir et se comporte en tyran. Et les Romains, surtout les Romains du temps de la République, qui avaient chassé le roi, en étaient tout à fait fiers, bah, ils le prennent très mal. Et ça va au moins dans une des versions de la disparition de Romulus, ça va jusqu'à son assassinat par les sénateurs qui supportaient difficilement le virage vers le despotisme du roi. Alors c'est vrai qu'il y avait une autre version très différente, évidemment beaucoup plus honorable, où il serait monté aux cieux, la version de l'apothéose, mais vous aviez les deux versions à la fois.
D'accord, donc un viol, un fratricide et peut-être donc un régicide, si on considère que Romulus était le roi. Ça fait quand même beaucoup de crimes pour une fondation. Bon, on reviendra un peu sur ce problème d'avoir un mythe fondateur aussi violent. Est-ce que ça fait problème ? Est-ce que ça fait problème pour nous ? Peut-être pas pour eux, etc., pour les anciens. Mais avant, on va lire l'un des textes latins que vous avez préparé pour nous. Vous avez consacré deux livres, quand même, à Romulus. Romulus, jumeau et roi, réalité d'une légende, et Romulus, vue de Constantinople, la réécriture de la légende dans le monde byzantin. Mais pour partager vos travaux avec nos auditeurs, vous avez sélectionné une série de textes. Donc, commençons par un extrait de l'histoire de Rome depuis sa fondation de Tite Live, le plus connu des historiens latins du début du Principat, que vous allez lire en latin, tandis que je lirai la traduction française.
Alors justement, nous commençons par la fin, cette histoire bizarre du premier roi de Rome qui tourne mal, qui vire à la tyrannie, qui se fait assassiner par les sénateurs, au moins dans une des versions. Mais les choses sont plus compliquées et on va le voir avec Tite Live. Donc je vous lis d'abord le texte latin. His immortalibus editis operibus, cum ad exercitum recensendum concionem in campo ad caprae paludem aberet, subito corta cum magno fragore tenitribusque, tam denso regem operuit nimbo, ut conspectum eius concionie abstulerit, nec dainde interis Romulus fuit.
Après ces immortels travaux, et un jour qu'il assistait à une assemblée, dans un lieu voisin du marais de la Chèvre, pour procéder au recensement de l'armée, survint tout à coup un orage, accompagné d'éclats de tonnerre, et le roi, enveloppé d'une vapeur épaisse, fut soustrait à tous les regards. Depuis, il ne reparut plus sur la terre.
Romana pubes, sedato tantem pauore, postquam extam turbido die serena tranquilla lux redit, ubi vacuam sedem regiam vidit, et si satis credebat patribus, qui proximis deterant, sublimem raptum procella, tamen, velut orbitatis me tuicta maestum aliquam dius identium obtinuit.
Quand l'effroi fut calmé, quant à l'obscurité profonde eut succédé à un jour tranquille et pur, le peuple romain, voyant la place de Romulus inoccupée, semblait peu éloigné de croire au témoignage des sénateurs, lesquels, demeurés près du roi, affirmaient que pendant l'orage, il avait été enlevé au ciel. Cependant, comme si l'idée d'être à jamais privé de son roi lui frappait de terreur, il resta quelque temps dans un morne silence.
Dainde, apaucis initio facto, deum deonatum regem patemque urbis romanae salvere universi Romulum iubent, pacem precibus exposcunt, uti volens propitius, suam semper sospitet progeniem.
Enfin, entraîné par l'exemple de quelques-uns, tous, par acclamations unanimes, salue Romulus, Dieu, fils de Dieu, roi et père de la ville romaine. Il lui demande, il le conjure de jeter toujours un regard propice sur sa postérité.
Fuisse credo tum quoque aliquos, qui discertum regem patrum manibus taciti arguerent, manuit enim aequoque, sed per obscura fama.
Je suppose qu'il ne manqua pas alors de gens qui accusèrent tout bas les sénateurs d'avoir déchiré Romulus de leurs propres mains. Le bruit même s'en répandit, mais n'acquit jamais beaucoup de consistance. Alors, pourtant, Dominique Briquel, cette rumeur a eu un certain succès, et vous en avez écrit l'histoire. Pouvez-vous résumer les témoignages les plus importants pour nos auditeurs ?
Alors, cette rumeur, il faut bien voir que derrière ça, ça veut dire que Romulus avait mal tourné. Il était le fondateur de Rome, bien sûr, mais il s'était très mal comporté. Et que les sénateurs, qui représentaient le peuple romain, Senatus Populusque Romanus, avaient éprouvé le besoin de se débarrasser de lui et de l'assassiner. Évidemment, ça peut sembler assez étrange, mais c'est une version qui existait, et même assez étrangement, certains auteurs la rapportent et estiment que c'est plus vraisemblable que l'apothéose, en particulier le cas d'un auteur grec qui s'appelle Denis d'Halicarnasse, qui écrivait à l'époque d'Auguste, qui a fait une histoire de Rome, donc c'est un contemporain de Tite Live. Et lui, sur ce point-là, il écrivait en grec, bien sûr, mais sa version était assez différente. Et lui préférait, au contraire, la version de l'assassinat, parce que pour lui, il estimait que ces histoires d'apothéose étaient strictement impossibles, que jamais un homme ne pouvait être enlevé aux cieux et monter directement au ciel. Par conséquent, pour des raisons, disons, rationnelles, il estimait que l'histoire de l'assassinat avait plus de crédibilité historique. Il utilisait le terme de mutodès, c'est-à-dire mythique, fabuleux, pour parler de la version de l'apothéose, et pour lui, ce qui était le plus plausible historiquement, pitanoteron, ce qui veut dire plus fiable en grec, c'était la version de l'assassinat.
Les subjugantes inflexions de la voix de Nathalie Dessé dans l'opéra de Handel Giulio Cesare. Elle interprétait le rôle de Cléopâtre qui tentait de dissuader par son imploration son frère Ptolémée d'assassiner son amant Jules César. Mais revenons à un autre assassinat, celui de Romulus, dont on parle aujourd'hui dans Les Humanités dans le texte avec Dominique Briquel. Comment expliquer que les Romains s'accommodent d'un tel crime aux origines même de leur monde et de leur cité ?
Alors justement, le problème est que les Romains, eux, ils ont du mal à l'accepter. Donc ils ont imaginé des histoires qui édulcoraient la légende et qui disculpaient leur fondateur, Romulus, de ce crime horrible contre son propre sang, qui était le fratricide.
Et alors, quelles ont été les ressources narratives, imaginatives, pour édulcorer un peu le crime originel ?
Les Romains, évidemment, se sont creusés la tête pour essayer de trouver un moyen de disculper le pauvre Romulus, et ils s'y sont pris de deux manières. Il y a une première façon qui d'ailleurs était présente chez Tite-Live, de dire que, ben, au fond, quand Rémus et Romulus se disputaient, il n'était pas seul, il y avait ses partisans, il y avait les partisans de Romulus, et ces deux groupes ont commencé à chamailler, à en venir aux mains, et ça a mal tourné. Et qu'il y a eu une sorte de mêlée indistincte, et à la fin, on s'aperçut que quelqu'un avait tué Rémus. Alors on ne savait pas qui, évidemment, ça n'était sans doute pas Romulus, mais au fond, une sorte de responsabilité complètement diffuse, donc Romulus n'y était pour rien. Bon, c'était peut-être pas suffisant, il fallait peut-être mieux trouver un véritable coupable, et évidemment, les Romains y sont arrivés. Ils ont imaginé un personnage qui s'appelait Keller. Et ce Keller aurait été un des gardes de Romulus, et Romulus l'avait préposé à la surveillance de sa muraille au moment où il est en train de fonder la ville. Les Romains creusaient un pomerium, limite sacrée, établissaient une muraille, et bien sûr, il y avait toujours eu des gardes pour le surveiller. Donc ça avait été le dénommé Keller. Et Keller est de garde la nuit, puis voit apparaître quelqu'un dans l'ombre, et le quelqu'un, évidemment, c'est Rémus. Donc, le brave Keller, il applique la consigne, il dit « qu'est-ce que c'est que ça ?» et il tue Rémus. Romulus arrive, et le pauvre Romulus dit « oh là là, qu'est-ce que t'as fait ? T'as tué mon frère, ça a vu mourir, bon, il fond en larmes, certains auteurs disent même qu'il voulait presque se suicider, donc c'est un très bon système, Romulus n'y était pour rien, c'était cet imbécile de Keller, donc on avait le coupable tout trouvé. »
Alors, si on regarde d'autres cultures, d'autres civilisations, est-ce qu'on trouve des histoires similaires d'assassinat d'un roi fondateur ?
Oui, alors justement, ce qui est intéressant, c'est que les Romains étaient très gênés par cette histoire-là. Mais ils n'avaient pas les ressources de l'ethnographie et ils ne pouvaient pas les chercher, ce qu'on avait dans d'autres civilisations. Or, c'est vrai qu'on connaît des histoires tout à fait parallèles à l'origine d'une cité ou d'un groupe, de meurtres et de meurtres fratricides, le meurtre d'un frère par son frère, et en particulier des histoires de jumeaux. Alors, il ne faut pas aller très loin pour trouver une histoire qui est tout à fait semblable, puisque vous l'avez dans la Bible. C'est l'histoire de Jacob et Ésaü. Et l'histoire de Jacob et Ésaü, c'est aussi des jumeaux. C'est aussi des jumeaux avec un détail qui est clairement dit dans la Bible, qu'on arrive à comprendre dans la légende romaine, même si c'est moins clairement affirmé, que même s'il y a deux jumeaux, il y en a un qui naît le premier, il y en a un qui sort d'abord. Et dans la Bible, clairement, c'est Ésaü, le vilain, le méchant, si on veut. Et dans la légende romaine, c'est Rémus. Donc, le premier, c'est d'une part Ésaü, d'autre part Rémus. Ensuite, évidemment, il y a un retournement. Parce que vous connaissez l'histoire de Jacob et Ésaü. Le pauvre Ésaü part à la chasse, mais quasiment il meurt de faim, et il retourne au campement où son frère était avec ses bêtes. Il lui demande de lui donner de quoi manger. Et son frère lui donne un plat de lentilles, mais ce plat de lentilles, je te le donne, mais tu me cèdes ton droit d'aînesse. Autrement dit, c'est le second, le plus jeune, Jacob, qui va l'emporter par rapport à Ésaü. Et c'est entériné par la bénédiction que leur père Isaac donne, non pas à Ésaü, mais à Jacob. Alors Jacob est tout à fait malin, il se met une peau de bête pour faire croire qu'il est son frère, etc. Je passe sur les détails. Bon, dans l'histoire de Rome, vous avez exactement la même chose. Puisque ce qui va départager les frères, c'est la prise d'auspice, donc l'observation des oiseaux pour savoir quelle est la volonté des dieux, pour savoir qui les dieux et le dieu suprême Jupiter vont choisir pour être le fondateur de la ville. Et ce sera Romulus et non pas Rémus, parce que Romulus voit 12 vautours, alors que son frère n'en a vu que 6. Donc c'est Romulus qui l'emporte, et qui l'emporte avec l'assentiment des dieux. Donc c'est exactement comme l'histoire de perte du droit d'aînesse dans la Bible. En plus, alors là, il faut sortir de la Bible, parce que, je vous rappelle la suite de l'histoire de la Bible, Ésaü est furieux contre Jacob, et Jacob s'en va. Mais il revient au bout d'un certain temps, il rencontre son frère Ésaü, puis il arrive à se réconcilier avec eux, bon, il y a une sorte de happy end, les choses se terminent très bien. Mais en réalité, si on va voir des traditions extra-bibliques sur la même histoire, parce qu'on a des récits, le testament des patriarches, des choses comme ça, le livre des jubilés, qui racontent la même histoire, mais la fin est très différente. Parce que lorsque Jacob revient, il y a un conflit avec son frère Ésaü. Et vous avez exactement le même type de fin, Ésaü se fait tuer par Jacob. Donc dans cette version-là, disons la version non édulcorée, vous avez même chose, mise à mort du frère évincé par le frère qui l'emportait. Qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, le frère évincé, c'est le plus âgé, c'est le premier. Et en plus, il est marqué du côté du monde sauvage, etc. Ce qui n'est pas le cas du plus jeune, qui va fonder la cité, va passer à un autre type de groupe humain, que ce soit le peuple d'Israël, dans l'histoire biblique ou parabiblique, ou que ce soit Rome dans la version romaine. Autrement dit, le plus âgé des deux représente un stade antérieur, un stade dépassé. Et il faut qu'il cède la place devant le plus jeune qui va permettre au groupe humain de passer à un stade plus développé. Alors bien sûr, c'est des analyses que nous pouvons faire avec notre analyse anthropologique, disons, du mythe, mais pour les anciens, c'était totalement compréhensible. Et c'est pour ça qu'ils ont préféré dissimuler l'histoire, trouver des échappatoires, etc. Bon, pour eux, c'était l'histoire, et c'était d'autant plus gênant pour eux que c'est des gens qui vivaient à l'époque des guerres civiles entre César et Pompée, Antoine et Octave qui deviendra Auguste, donc vraiment des guerres fratricides, et ils imaginaient que ça, c'était la conséquence du meurtre originel, qu'ils expiaient la faute de Romulus. Donc il fallait faire disparaître cette histoire horrible.
On entendait la présentation du thème de la Totentanz ou danse macabre de Liszt pour piano et orchestre, interprété ici par Boris Berezovsky et l'Orchestre Philharmonique de Radio France, dirigé par Konstantin Trinks. Vous écoutez toujours Les Humanités dans le texte pour un épisode consacré à Romulus et Rémus, et Dominique Briquel, notre invité, nous expliquait à l'instant le problème que posait la gémellité aux sociétés de l'Antiquité et la façon, parfois brutale, que celle-ci pouvait avoir de régler ce problème. Tout simplement par le meurtre d'un des deux jumeaux, et plutôt l'aîné, car représentant les générations passées, la nature, devant faire place aux générations à venir, à la culture.
Alors effectivement, c'est là une des utilisations possibles du thème de la gémellité. Alors la gémellité, on peut en parler très longuement. Clairement, ça fascinait les hommes, parce qu'ils trouvaient qu'avoir des jumeaux, ce n'était pas normal, qu'un homme, normalement, ne pouvait avoir qu'un seul fils à la fois, mais avoir plusieurs fils, deux fils, c'était quelque chose qui nécessitait l'intervention de quelque chose qui dépassait l'homme et quelque chose de surnaturel. Donc souvent, c'était un dieu qui intervenait. Dans le cas de Romulus et Rémus, c'est le dieu Mars qui était leur père. Mais dans le cas de toutes sortes d'autres jumeaux, vous avez aussi d'autres divinités. Alors, ça pouvait sembler positif. Par exemple, chez les Indo-Européens, souvent les jumeaux, vous aviez les Dioscures en Grèce ou leurs équivalents en Inde qu'on appelait les Ashvins, les Chevalins ou les Nasatya, les guérisseurs, c'était considéré comme bénéfique, un signe d'abondance, et Dumézil avait noté que souvent ça servait de dieu de la troisième fonction, donc des dieux justement liés à l'abondance. Mais en réalité, quelquefois, les rapports entre les jumeaux étaient conflictuels. Et la naissance de jumeaux pouvait être considérée comme source de danger. Je vais prendre un exemple qui n'a rien à voir avec les civilisations classiques. Dans le vaudou, vous avez des figures de jumeaux, et puisque ça nous amène plutôt vers l'Afrique noire, rappelez-vous que même ethnographiquement, dans certaines civilisations, un des deux jumeaux était mis à mort, considéré comme dangereux pour son frère.
C'est très intéressant de commencer par ce cas particulier, si emblématique de l'histoire de Rome, de Romulus et Rémus, pour en arriver à ces réflexions anthropologiques sur la gémellité. Merci beaucoup Dominique Briquel pour cet échange passionnant. Ce podcast vous a été présenté par Émile Gayoso, responsabilité scientifique Ankadan, et en plus des deux intermèdes musicaux, vous avez pu entendre, accompagnant la lecture du titre-livre, un extrait de la bande originale du jeu vidéo Rome Total War, composé par Jeff Van Dyk en 2004. Et c'est encore en musique que l'on poursuit et termine avec Les Dédales de Carole Beffa.